Les podcasts du Collège de France, philosophie.
Alors avant de vous parler de façon un peu plus précise et détaillée d'un problème dont j'avais déjà traité, mais qu'il nous faut maintenant considérer d'un peu plus près, je veux dire le problème de la relation entre les causes efficientes et les causes finales, et entre l'explication par les causes efficientes et l'explication par les causes finales. Avant de vous en parler de façon un peu plus précise, il y a une ou deux choses que je voulais ajouter par rapport à ce que je vous avais dit la semaine dernière. J'avais souligné à différentes reprises, j'avais insisté à différentes reprises sur la conviction qu'avait Leibniz qu'aucun système ne garantissait à la liberté un espace plus grand que le sien. Il dit qu'il n'est pas possible d'assurer à la liberté un espace de jeu plus grand que ne le fait mon système. Et vous avez sous les yeux un passage où il souligne à nouveau ce point qui lui paraît extrêmement important. C'est un des arguments majeurs qu'il invoque en faveur de son système. Et comme vous allez le voir, il présente les choses de la façon suivante. Il y a des théories philosophiques d'où il résulte que la liberté est seulement une apparence et la contrainte est la seule réalité. Donc, il y a des systèmes au terme desquels, qui sont tels que si on se fie à eux, il n'y a en réalité que de la contrainte. La liberté est une simple apparence, pour ne pas dire une illusion pure et simple. Il insiste sur le fait que dans son système, lui, c'est le contraire qui est vrai. C'est-à-dire la contrainte est en réalité une apparence et d'une certaine façon, au moins dans le cas de la substance individuelle, c'est la liberté qui est la seule réalité. Donc vous avez le passage sous les yeux. Il est en train de parler de son système, ce qu'il appelle son système nouveau, de la nature et de la communication des substances. Et il dit ceci, il s'y trouve aussi ce grand avantage qu'au lieu de dire que nous ne sommes libres qu'en apparence et d'une manière suffisante à la pratique, comme plusieurs personnes d'esprit ont cru, c'est-à-dire il y a toute une série de philosophes qui ont défendu l'idée que nous sommes libres exactement autant que nous avons besoin de l'être, c'est-à-dire aussi longtemps qu'il est possible de faire une distinction entre les actions qui sont le résultat d'une opération de la volonté et les actions qui ne le sont pas, c'est-à-dire les actions qui sont effectuées en conséquence d'une contrainte exercée de l'extérieur, aussi longtemps que nous pouvons faire une distinction de cette sorte, nous jouissons de toute la liberté dont nous avons besoin. Or, Leibniz propose à la créature libre quelque chose de beaucoup plus intéressant que cela. Donc, il se trouve dans mon système aussi ce grand avantage qu'au lieu de dire que nous ne sommes libres qu'en apparence et d'une manière suffisante à la pratique, comme plusieurs personnes d'esprit ont cru, il faut dire plutôt que nous ne sommes entraînés qu'en apparence. Donc, oui, c'est plutôt la contrainte qui est une apparence. Nous ne sommes entraînés qu'en la coercition, l'entraînement coercitif, c'est plutôt cette chose-là qui est une apparence. Donc ce qu'il faut dire est que dans la rigueur des expressions métaphysiques, donc si on s'exprime d'une façon métaphysiquement rigoureuse, nous sommes dans une parfaite indépendance à l'égard de l'influence de toutes les autres créatures. Ce qui met encore dans un jour merveilleux l'immortalité de notre âme et la conservation toujours uniforme de notre individu, parfaitement bien réglé par sa propre nature, à l'abri de tous les accidents du dehors, quelque apparence qu'il y ait du contraire. Jamais système n'a mis notre élévation dans une plus grande évidence, tout esprit étant comme un monde à part, suffisant à lui-même, indépendant de toute autre créature, enveloppant l'infini, exprimant l'univers, il est aussi durable, aussi subsistant et aussi absolu que l'univers lui-même des créatures. Voilà, il faut que je n'aurai pas le temps de le faire, malheureusement, je vous parle un peu plus longuement de la conception que l'idée que Leibniz se fait de la mort, qu'il perçoit la mort stricto sensu, donc l'âme est indestructible et ne périt pas, selon sa conception, il se représente la mort comme ce qu'on pourrait appeler une involution sur un plus petit théâtre, c'est-à-dire une réduction de dimension dans laquelle elle continue à exister sous une autre forme. Et vous voyez que dans ce passage, il souligne qu'au fond, l'âme de la substance individuelle est aussi indestructible que pourrait l'être l'univers lui-même. Elle est comme elle constitue une expression de l'univers entier. Son existence lui est rigoureusement solidaire de celle de l'univers. Par conséquent, encore une fois, la mort ne peut en aucun cas être comprise comme une destruction au sens propre du terme. Bon, je laisse de côté cette question qui ne sait pas qu'elle soit dépourvue d'intérêt, elle est au contraire du plus haut intérêt. Je veux dire, l'idée que Leibniz se fait de la mort, mais malheureusement, je ne peux pas m'y attarder longuement. Alors, il y a un ou deux autres points dont je voulais, sur lesquels je voulais ajouter quelque chose. Alors, d'abord, en ce qui concerne l'application du principe de raison suffisante aux vérités contingentes, j'ai eu l'occasion de souligner le fait que les vérités contingentes ont, exactement comme les vérités nécessaires, ont une raison suffisante, c'est-à-dire même dans le cas d'une vérité contingente et de l'espèce la plus contingente qui soit, il y a toujours une raison suffisante, c'est-à-dire une explication complète de ce qui fait que la proposition concernée est vraie plutôt que sa négation. L'explication complète réside dans ce que Leibniz appelle une raison suffisante. Et ce qui est intéressant, c'est que il considère que l'explication complète en question enveloppe d'une certaine façon l'infini, aussi bien dans le cas de l'explication par les causes finales que dans le cas de l'explication par les causes efficientes. Dans les deux cas, l'infini intervient, l'infini dans les raisons, ce qu'il appelle l'infini dans les raisons. Il dit ceci, la raison suffisante se doit trouver aussi bien dans les vérités, se doit trouver aussi dans les vérités contingentes ou de fait, c'est-à-dire dans la suite des choses répandues par l'univers des créatures, où la résolution en raison particulière pourrait aller à un détail sans borne. Donc, si on voulait fournir l'explication complète, il faudrait être prêt à entrer dans un détail qui est sans limite, à cause, dit-il, de la variété immense des choses de la nature et de la division des corps à l'infini. Il y a une infinité de figures et de mouvements présents et passés qui entrent dans la cause efficiente de mon écriture présente, ce qui fait que j'écris à présent, ou peut-être plus exactement que je parle à présent, mais il y a une infinité dans les mouvements que j'effectue pour ce faire. Il y a une infinité de figures et de mouvements présents et passés qui entrent dans la cause efficiente de l'action que je suis en train d'effectuer en ce moment. Et il y a ce qui est évidemment tout à fait intéressant et remarquable, il y a aussi une infinité de petites inclinations et dispositions de mon âme présentes et passées qui entrent dans la cause finale. Donc vous voyez que l'explication par les causes finales n'est pas forcément beaucoup plus simple et beaucoup plus à notre portée que l'explication par les causes efficientes. Parce que, encore une fois, elle aussi, elle enveloppe l'infini. Elle nous obligerait, si nous voulions la pousser jusqu'au bout, à entrer dans ce que Leibniz appelle un détail sans borne. Alors, il y a une troisième chose que je voulais vous indiquer, qui est tirée de... C'est un passage donc, d'un texte qui s'intitule... J'ai appelé ça la subordination du physique au métaphysique, ce qui est une explication que Leibniz... un mode d'expression que Leibniz utilise lui-même, je vous l'avais signalé la dernière fois. Donc on peut parler d'une sorte de subordination du physique au métaphysique. Et Leibniz dit à ce propos, alors c'est le début de la page, ce qui nous concerne. Oh, pardon. Alors, j'espère que je vais arriver. Oui, selon mon opinion, tout se fait mécaniquement, etc. Selon mon opinion, donc, tout se fait mécaniquement dans la nature, et pour rendre une raison exacte et achevée de quelques phénomènes particuliers, comme de la pesanteur ou du ressort, par exemple, il suffit de n'employer que la figure et le mouvement. Donc, vous voyez, ce genre de choses, la pesanteur, ou ce qui se passe dans un ressort, la force du ressort, ce sont des choses qui se peuvent expliquer, dit Leibniz, entièrement en termes de figure et mouvement. Mais les principes mêmes de la mécanique et les lois du mouvement naissent, à mon avis, de quelque chose de supérieur qui dépend plutôt de la métaphysique que de la géométrie. Donc, si on veut expliquer les principes, voyez, si on veut expliquer le détail des effets qui interviennent dans un phénomène comme la pesanteur ou lorsqu'on ressort étendu ou détendu, si on veut expliquer ce genre de choses, on peut l'expliquer complètement en termes de grandeur, figure et mouvement. Mais si on veut rendre raison des principes, des lois, en tout cas des principes les plus généraux, là on est obligé de faire intervenir les causes finales, c'est-à-dire la métaphysique. Mais les principes même de la mécanique et les lois du mouvement naissent, à mon avis, de quelque chose de supérieur qui dépend plutôt de la métaphysique que de la géométrie et que l'imagination ne saurait atteindre, quoique l'esprit le conçoive fort bien. Ainsi, je trouve que dans la nature, outre la notion de l'étendue, pardon, il faut employer celle de la force, qui rend la matière capable d'agir et de résister. Et par la force ou puissance, je n'entends pas le pouvoir ou la simple faculté qui n'est qu'une possibilité prochaine pour agir, qui étant comme morte même, ne produit jamais une action sans être excitée par dehors, mais j'entends un milieu entre le pouvoir et l'action qui enveloppe un effort, un acte, une entéléchie, car la force passe d'elle-même à l'action en tant que rien ne l'empêche. Et là, Leibniz donc insiste sur le fait que, en plus des notions qui relève de la mécanique stricte au sens propre du terme, telle qu'on se la représente à l'époque, c'est-à-dire grandeur, figure et mouvement, il faut faire intervenir une notion qui n'hésite pas, pour sa part, à qualifier de métaphysique. Il y a des endroits où il la qualifie explicitement de métaphysique, c'est la notion de force. Et cette notion de force, oui, ça matérialise en quelque sorte, si on peut s'exprimer ainsi, la subordination dont nous sommes en train de parler de la physique à la métaphysique. C'est la notion de force qui constitue l'élément crucial dans cette affaire. Alors Leibniz précise ce qu'il entend par force. Il faut entendre par force, dit-il, non pas une puissance passive qui attendrait une sollicitation externe pour se manifester, mais une puissance active, c'est-à-dire quelque chose qui implique, comme il le dit déjà, un effort, une tendance, un effort. Donc, il dit un effort, un acte inintelligible, car la force passe d'elle-même à l'action en tant que rien ne l'empêche. Donc la force est quelque chose qui n'a pas besoin d'être sollicité de l'extérieur, mais qui comporte en elle-même la capacité d'agir si rien ne s'y oppose. C'est pourquoi, dit-il, là la formule est très remarquable, c'est pourquoi je la considère, la force, comme le constitutif de la substance étant le principe de l'action qui en est le caractère. Ainsi, je trouve que la cause efficiente des actions physiques est du ressort de la métaphysique. La cause efficiente des actions physiques est du ressort de la métaphysique. En quoi ? Je suis fort éloigné de ceux qui ne reconnaissent dans la nature que ce qui est matériel ou étendu et qui, par là, se rendent suspects avec quelque raison auprès des personnes de piété. Évidemment, cela leur doctrine présente un aspect qui est peu satisfaisant pour les hommes de piété, comme les appellent les personnes de piété, comme les appellent Leibniz. Ils sont plutôt accusés régulièrement d'être des mécanistes, des matérialistes, etc., et donc des esprits complètement irréligieux. Alors, ce qui est remarquable, vous voyez, c'est qu'il y a chez Leibniz une tendance qui se manifeste assez souvent à identifier, plus ou moins, tout au moins pour ce qui concerne la nature corporelle, à identifier l'ordre de la causalité efficiente avec la mécanique, avec les effets qui peuvent être expliqués en termes mécaniques. Mais l'intervention de la force complique évidemment cette situation, ce qui fait que ça amène Leibniz à dire qu'il y a un type de causalité efficiente qu'on ne peut pas décrire de cette façon. C'est ce qu'il veut dire quand il dit que la cause efficiente des actions physiques est du ressort de la métaphysique. On est obligé, en raison de l'existence et de l'importance de la force, on est obligé d'introduire un type de causalité efficiente qui doit être caractérisé lui-même comme métaphysique. Donc il ne serait pas possible d'identifier purement et simplement, même si ça serait beaucoup plus satisfaisant, d'identifier purement et simplement le règne, l'ordre de la causalité efficiente avec celui de la causalité qui s'exerce de façon mécanique. Les choses sont donc plus compliquées, mais j'aurai l'occasion de revenir sur ce point, parce que par ailleurs, il y a aussi une tentation qu'on pourrait avoir, celui de croire que la causalité efficiente n'est à l'œuvre que dans la nature corporelle et que les causes finales, elles, ne sont à l'œuvre que dans le règne de l'esprit. Mais ce n'est pas non plus le cas, puisque évidemment, même dans l'univers mental, dans le monde mental, la causalité efficiente peut évidemment être aussi à l'œuvre, en plus des causes finales. Bon, ce sont des points sur lesquels j'espère avoir le temps de revenir de façon un peu plus détaillée. Alors j'en viens donc maintenant à mon chapitre 8, qui porte précisément sur cette question de la relation, la nature exacte de la relation entre les causes efficientes et les causes finales, telle que Leibniz cela représente. Alors il y a une chose que Leibniz dit assez souvent, et j'avais déjà cité certains textes dans lesquels ça apparaît de façon tout à fait claire, c'est qu'il y a certains effets, les mêmes effets dans certains cas, dit Leibniz, peuvent s'expliquer indifféremment par la considération des causes efficientes et par celle des causes finales. Alors vous voyez par exemple ce qu'il dit dans le discours de métaphysique, c'est le paragraphe 21, qui porte précisément sur cette question. Il dit, or, puisqu'on a toujours reconnu la sagesse de Dieu dans le détail de la structure mécanique de quelques corps particuliers, il faut bien qu'elle se soit montrée aussi dans l'économie générale du monde et dans la constitution des lois de la nature. Et là, il fait remarquer, puisqu'on reconnaît la sagesse de Dieu dans la construction remarquable de certains organismes, par exemple, dans le détail de la construction des organismes, bien, il faut être préparé à reconnaître aussi la sagesse de Dieu, la sagesse et l'intelligence divine dans ce qu'il appelle l'économie générale et dans la nature, dans la constitution des lois elles-mêmes, dans le choix des lois elles-mêmes, pas seulement donc dans la construction des choses, mais également dans la nature des lois. Ce qui est si vrai qu'on remarque les conseils de cette sagesse dans les lois de mouvement en général, car s'il n'y avait dans les corps qu'une masse étendue, et s'il n'y avait dans le mouvement que le changement de place, et si tout se devait et pouvait déduire de ces définitions, toute seule, par une nécessité géométrique, il s'en suivrait, comme j'ai montré ailleurs, que le moindre corps donnerait au plus grand qui serait en repos, et qu'il rencontrerait la même vitesse qu'il a, sans perdre quoi que ce soit de la sienne. Et il faudrait admettre quantité d'autres telles règles, tout à fait contraires à la formation d'un système, mais le décret de la sagesse divine veut conserver toujours la même force et la même direction, en somme, y a pourvu. Je trouve même que plusieurs effets de la nature se peuvent démontrer doublement, savoir par la considération de la cause efficiente et encore à part par la considération de la cause finale, en se servant par exemple du décret de Dieu de produire toujours son effet par les voies les plus aisées et les plus déterminées, comme j'ai fait voir ailleurs, en rendant raison des règles de la catoptrique et de la dioptrique, et en dirai davantage tantôt. Il est bon de faire cette remarque pour concilier ceux qui espèrent d'expliquer mécaniquement la formation de la première tissure d'un animal et de toute la machine des parties avec ceux qui rendent raison de cette même structure par les causes finales. L'un et l'autre est bon, l'un et l'autre peut être utile non seulement pour admirer l'artifice du grand ouvrier, mais encore pour découvrir quelque chose d'utile dans la physique et dans la médecine, et les auteurs qui suivent ces routes différentes ne devraient point se maltraiter. Donc là, vous voyez apparaître à nouveau le Leibniz conciliateur, donc qui est convaincu qu'il y a un moyen de mettre plus ou moins d'accord, mettre tout le monde d'accord, et faire, dans le cas précis, de mettre d'accord les partisans fervents de l'explication par les causes efficientes avec ceux qui sont au contraire des amoureux des causes finales et qui préféreraient recourir à l'explication par la finalité. Donc, Leibniz souligne dans ce passage que nous avons besoin des deux espèces d'explications et que dans certains cas, les deux peuvent servir à expliquer les mêmes effets. Alors, un passage encore, ce qui est susceptible de nous intéresser. Alors, est-ce que c'est celui-là ? Oui, c'est celui-là, excusez-moi. Ce qui nous intéresse, donc, c'est le passage qui commence ici. Et Dieu est assez habile, artisan, pour produire une machine encore plus ingénieuse mille fois que celle de notre corps. Je crois que vous avez déjà cité ce passage, mais c'est la suite qui nous intéresse aujourd'hui. Donc, il est assez habile pour produire une machine encore plus ingénieuse que celle de notre corps, en ne se servant que de quelques liqueurs assez simples, expressément formées, en sorte qu'il ne faille que les lois ordinaires de la nature pour les démêler comme il faut, à la fin de produire un effet si admirable. Mais il est vrai aussi que cela n'arriverait point si Dieu n'était pas auteur de la nature. Cependant, je trouve que la voie des causes efficientes, qui est plus profonde en effet, en quelque façon plus immédiate et a priori, est en récompense assez difficile quand on en vient au détail. Donc, la voie des causes efficientes est plus satisfaisante pour bien des raisons, mais quand on entre dans les détails, évidemment, ça peut devenir extrêmement difficile. Et je crois, dit Leibniz, que nos philosophes, le plus souvent, en sont encore bien éloignés. Mais la voie des finales est plus aisée et ne laisse pas de servir souvent à deviner des vérités importantes et utiles qu'on serait bien longtemps à chercher par cette autre route plus physique dont l'anatomie peut fournir des exemples considérables. Et là, vous voyez que Leibniz se souligne une chose que peu de gens contestent, hein, c'est que la recherche des causes finales peut avoir au moins une vertu heuristique. Les causes finales n'ont pas forcément une réalité objective, et de façon générale, il y a multiples raisons de s'en méfier, mais elles ont au moins cette vertu heuristique. Hein. Aussi tiens-je, dit-il, que Snellius, qui est le premier inventeur des règles de la réfraction, aurait attendu longtemps à les trouver s'il avait voulu chercher premièrement comme la lumière se forme. Mais il a suivi apparemment la méthode dont les anciens se sont servis pour la catoptrique, qui est en effet par les finales. Car cherchant la voie la plus aisée pour conduire un rayon d'un point donné à un autre donné, par la réflexion d'un plan donné, en supposant que c'est le dessin de la nature, ils ont trouvé l'égalité des angles d'incidence et de réflexion, comme l'on peut voir dans le petit traité d'Héliodore de Larisse et ailleurs, ce que M. Snellius, comme je crois, et après lui, quoique sans rien savoir de lui, M. Fermat, ont appliqué plus ingénieusement à la réfraction. Car lorsque les rayons observent dans les mêmes milieux la même proportion des sinus, qui est aussi celle des résistances des milieux, il se trouve que c'est la voie la plus aisée, ou du moins la plus déterminée pour passer d'un point donné dans un milieu à un point donné dans un autre. Et il s'en faut beaucoup que la démonstration de ce même théorème que M. Descartes a voulu donner par la voie des efficientes soit aussi bonne. Aussi y a-t-il lieu de soupçonner qu'il ne l'aurait jamais trouvé par là s'il n'avait rien appris en Hollande de la leçon de la découverte de M. Snellius. Petite perfidie finale. Mais en tout cas, ce que Leibniz veut dire clairement, c'est que Descartes s'est compliqué singulièrement la tâche en refusant de faire intervenir, même à des fins heuristiques, la considération des causes finales. Ce que une erreur que ni Snellius ni Fermat n'avaient commis, puisque dans la formulation du principe de Fermat, la téléologie intervient de façon tout à fait explicite et le point de vue téléologique intervient de façon tout à fait explicite et Fermat ne s'en cache nullement. C'est quelque chose qui revendique explicitement. Alors évidemment, vous ne serez pas surpris de constater que du point de vue de Leibniz, ce sont Snellius et Fermat qui ont raison contre Descartes. Alors en ce qui concerne la subordination du physique au métaphysique, dont je viens de vous donner un exemple, je crois que je vous avais déjà cité ce passage où Leibniz insiste à nouveau là-dessus, il dit « Pour moi, je crois que les lois de la mécanique qui servent de fondement à tout le système dépendent des causes finales, c'est-à-dire de la volonté de Dieu déterminée à faire ce qui est le plus parfait et que la matière ne prend pas toutes les formes possibles, mais seulement les plus parfaites. Autrement, il faudrait dire qu'il y aura un temps où tout sera mal en ordre, ce qui est bien éloigné de la perfection de l'auteur des choses. » Donc là, il reformule une critique qu'il a formulé contre Descartes, contre une chose que Descartes affirme dans les principes de la philosophie, comme je vous en avais parlé l'année dernière. Je ne reviens pas là-dessus. Je pense qu'il se méprend peut-être de façon plus ou moins délibérée sur ce que Descartes veut dire. Mais en tout cas, son idée est claire. L'idée, ça veut dire qu'il y a une sélection qui doit s'effectuer entre tous les possibles et qui est interdit de considérer que la matière prend successivement toutes les formes possibles. Parce que si c'était le cas, il y aurait un moment évidemment où elle se trouverait dans un état de désordre complet, chose que Leibniz se refuse à envisager. Mais naturellement, on pourrait faire remarquer que si la matière passe réellement par toutes les formes possibles, elle ne restera pas évidemment dans cet état de désordre complet. Et on peut envisager qu'elle en sorte à nouveau, à un moment donné. Mais en tout cas, ce n'est pas de cette façon que Leibniz considère les choses. Mais alors, dire que les lois de la mécanique dépendent des causes finales, dire que les lois de la mécanique dépendent des causes finales ne veut pas dire, j'avais aussi insisté sur ce point, que les premières, c'est-à-dire les lois de la mécanique, dans leur application, sont soumises à l'influence des causes finales. Il y a une subordination, il n'y a pas d'influence. J'ai suffisamment souligné ce point pour n'avoir pas besoin d'y revenir une fois de plus. Alors ce que veut dire cette subordination des lois de la mécanique aux causes finales, ce que veut dire cette subordination est uniquement que la nature des lois et également celle des exceptions qui seront faites là où la présence de miracles a été jugée nécessaire, donc même cela a été décidé en fonction de considérations qui font intervenir de façon essentielle la finalité. En l'occurrence, l'exigence de la plus grande perfection possible. Leibniz dit ceci, je montrais, c'est-à-dire il est engagé dans une discussion avec les gens qui cherchent à exclure la considération des causes finales, c'est-à-dire des gens comme Descartes, Spinoza et Hobbes, et il a essayé de montrer contre eux que ces mêmes lois de la mécanique ne découlent pas de principes géométriques, mais de principes métaphysiques. Et si toutes les choses n'étaient pas gouvernées par un esprit, elles seraient de beaucoup différentes de ce que nous expérimentons. Donc si Leibniz soutient que les lois ne pourraient pas être ce qu'elles sont, s'il n'y avait pas eu au départ un choix, s'il n'y avait pas eu un choix qui était inspiré par un principe de sagesse, c'est-à-dire par le principe du meilleur. Mais, la finalité... pour Leibniz, vous vous en doutez, n'a évidemment pas seulement une utilité heuristique que je crois personne le contesterait sérieusement. Il n'a pas seulement une utilité heuristique, compte tenu de tout ce qui vient d'être dit, vous vous doutez qu'il a également une réalité objective. Mais le problème qui se pose, c'est est le suivant. Je ne suis pas certain que Leibniz donne une réponse qui est en tout point claire à cette question cruciale. Qu'est-ce qu'on peut se proposer légitimement d'expliquer à l'aide des causes finales? Est-ce que c'est des effets particuliers qu'on ne pourrait pas expliquer en termes de causalité efficiente? Est-ce que c'est les lois de la nature, c'est-à-dire le fait que les lois de la nature soient ce qu'elles sont, plutôt que, qu'autre, c'est-à-dire le fait qu'il y a des lois de la nature qui sont celles que nous essayons et réussissons jusqu'à un certain point. Nous essayons de connaître et réussissons jusqu'à un certain point à connaître. Donc, est-ce que c'est les lois de la nature ou est-ce que ce n'est pas plutôt quelque chose qu'on pourrait appeler, et que Leibniz appelle du reste de ce nom, qu'on pourrait appeler les principes généraux de la nature. Les principes généraux de la nature, comme par exemple le principe de continuité. Alors, voyez ce que Leibniz dit dans ce... ce passage, si j'arrive à trouver l'endroit qui nous intéresse. Oui, alors là, oui, il est question, il parle de quelque chose qui est différent de la figure et du mouvement, et on peut juger que tout ce qui est conçu dans le corps ne consiste pas uniquement dans l'étendue dans ses modifications comme nos modernes nous en persuadent. Ainsi, nous sommes encore obligés, donc c'est ce passage-là qui nous intéresse. Hein. Ainsi, nous sommes il paraît de plus en plus que quoique tous les phénomènes particuliers de la nature se puissent expliquer mathématiquement ou mécaniquement par ceux qui les entendent. Vous voyez que là, il dit que l'apparence, c'est qu'on doit pouvoir expliquer. Tenez bien compte du fait qu'il dit tous les phénomènes de la nature. Hein, il ne parle pas de ce qui se passe dans l'esprit. Hein. Pour le moment, il ne s'agit que des phénomènes de la nature. Donc, à première vue, tous les phénomènes de la nature se peuvent expliquer mathématiquement ou mécaniquement par ceux qui les entendent. Il apparaît que néanmoins, les principes généraux de la nature corporelle et de la mécanique même sont plutôt métaphysiques que géométriques et appartiennent plutôt à quelques formes ou natures indivisibles comme cause des apparences qu'à la masse corporelle ou étendue. Réflexion qui est capable de réconcilier la philosophie mécanique des modernes avec la circonspection de quelques personnes intelligentes et bien intentionnées qui craignent avec quelques raisons qu'on ne s'éloigne trop des êtres immatériels au préjudice de la piété. Donc là, une fois de plus, vous voyez la décision de s'en tenir aux causes efficientes est évidemment perçue par les hommes pieux, par les défenseurs de la religion, comme une menace directe contre la religion elle-même. Comme je n'aime pas de juger des gens en mauvaise part, je n'accuse pas nos nouveaux philosophes qui prétendent de bannir les causes finales de la physique, mais je suis néanmoins obligé d'avouer que les suites de ce sentiment me paraissent dangereuses, surtout quand je le joins à celui que j'ai réfuté au commencement de ce discours, qui semble aller ôter tout à fait, comme si Dieu ne se proposait aucune fin ni bien en agissant, ou comme si le bien n'était pas l'objet de sa volonté. Et pour moi, je tiens au contraire que c'est là où il faut chercher le principe de toutes les existences et des lois de la nature, parce que Dieu se propose toujours le meilleur et le plus parfait. Alors, vous voyez qu'il distingue deux formes de rejet des causes finales. Il y a les philosophes qui disent, comme Descartes, que bon, c'est un univers qui nous reste absolument fermé, nous ne pouvons pas les connaître. Et puis il y a ceux qui, comme Spinoza, vont plus loin et soutiennent qu'aucune espèce de finalité n'intervient dans le déroulement des phénomènes naturels. Alors, si je vous ai cité ce passage, c'est parce que il y a en effet une question cruciale qui se pose. Qu'est-ce qu'on peut prétendre expliquer par le recours aux causes finales? Encore une fois, est-ce que c'est des effets particuliers? Est-ce que c'est le fait que les lois de la nature soient ce qu'elles sont? Ou bien est-ce que ce n'est pas, en priorité, et peut-être uniquement, ce qu'on peut appeler des principes généraux de la nature, comme par exemple le principe de continuité, le principe de moindre action, les principes de conservation en général, les principes de maximum et de minimum? Est-ce que c'est pas pour expliquer que des principes de cette sorte soient en vigueur, hein. Est-ce que ce n'est pas précisément pour expliquer ce genre de choses qu'on a besoin de faire intervenir les causes finales. Alors ça, c'est une question qui est vraiment, à laquelle il est vraiment difficile à répondre. Alors, en attendant, il y a, oui, il y a encore une chose qu'il faut que je vous signale, c'est le fait que une des raisons essentielles, d'après Leibniz, pour lesquelles Descartes et Spinoza se sont privés de la possibilité de distinguer entre la nécessité purement géométrique, autrement dit aveugle, puisque Leibniz la qualifie de cette façon. Donc une des raisons pour lesquelles ils se sont privés de la possibilité de distinguer entre cette nécessité-là, la nécessité purement géométrique, et la nécessité morale, c'est-à-dire qu'ils se sont privés finalement de la possibilité de distinguer entre la nécessité et la contingence, eh bien, une des raisons donc fondamentales est, selon Leibniz, le fait qu'ils n'ont pas, ils n'ont pas connu les véritables lois de la dynamique. Alors vous voyez sur ce point la lettre à Raymond, dont vous avez un passage sous les yeux. Vous voyez le deuxième paragraphe, hein, où Leibniz, où il est question de. Leibniz parle de sa dynamique. Et dit-il, ma dynamique demanderait un ouvrage exprès, car je n'ai pas encore tout dit ni communiqué ce que j'ai à dire là-dessus. Vous avez raison, monsieur, de juger que c'est en bonne partie le fondement de mon système, parce qu'on y apprend la différence entre les vérités dont la nécessité est brute et géométrique, et entre les vérités qui ont leur source dans la convenance et dans les finales. Et c'est comme un commentaire sur ce beau passage du Phédon de Platon, que j'ai cité quelque part dans un journal, qu'en supposant qu'une intelligence produit toute chose, il faut trouver leur source dans les causes finales. Socrate y blâme Anaxagore, qui avait dit qu'une intelligence, nous, avait produit les choses, et après cela, n'avait parlé que du concours des corpuscules, sans employer cette intelligence et sans marquer les fins des choses. Alors, ce passage du Phédon est un passage auquel Leibniz se réfère assez fréquemment. Je signale simplement, à nouveau, sans avoir le temps de m'y attarder autant qu'il le faudrait, que, évidemment, ce que Leibniz dit sur cette question de l'intervention essentielle des causes finales et la nature exacte de la relation qui existe entre les causes efficientes et les causes finales est évidemment liée de façon tout à fait directe, comme il le souligne lui-même, à sa dynamique. Alors, en ce qui concerne... Il y a une conséquence qui résulte de cela en ce qui concerne le statut des lois de la nature, qui apparaît, qui est expliqué, exposé très clairement dans la Théodicée, hein, dans le paragraphe 349 de la troisième partie. Alors dans ce paragraphe 349 que vous avez sous les yeux, Leibniz dit ces considérations, donc il fait allusion aux considérations qu'il vient de développer, ces considérations font bien voir que les lois de la nature qui règlent les mouvements ne sont ni tout à fait nécessaires, ni entièrement arbitraires. Donc, il conclut de ce qu'il vient de dire, que le statut qui doit être accordé aux lois de la nature est intermédiaire entre celui des lois nécessaires, celui des vérités nécessaires, au sens de la nécessité logique, géométrique ou métaphysique, hein, qui est une nécessité aveugle, c'est la nécessité des propositions mathématiques. Donc à une extrémité, vous avez les vérités nécessaires de la logique et des mathématiques. À l'autre extrémité, vous avez des propositions qui constituent l'expression de conventions plus ou moins arbitraires, hein, en tout cas dans lesquelles intervient un élément de choix arbitraire. Et puis entre les deux, vous avez les lois de la nature. Hein, donc elles se situent quelque part entre ces deux extrêmes. Donc, ces considérations font bien voir que les lois de la nature qui règlent les mouvements ne sont ni tout à fait nécessaires, ni entièrement arbitraires. Elles ne sont pas tout à fait nécessaires parce qu'elles pourraient, sans contradiction, être différentes. Il y a des mondes possibles dans lesquels les lois de la nature seraient différentes. Donc, elles ne sont pas tout à fait nécessaires, mais elles ne sont pas non plus tout à fait arbitraires. Donc, elles sont justifiées, et justifiées d'une façon qui fait, dit Leibniz, intervenir de façon essentielle le principe du meilleur. Le milieu qu'il y a à prendre est qu'elles sont un choix de la plus grande sagesse, et ce grand exemple des lois du mouvement fait voir plus clairement, le plus clairement du monde, combien il y a de différence entre ces trois cas, savoir, premièrement, une nécessité absolue, métaphysique ou géométrique, qu'on peut appeler aveugle, et qui ne dépend que des causes efficientes. En second lieu, alors là, c'est assez curieux qu'ils disent que c'est une nécessité qui ne dépend que des causes efficientes, parce que ça veut dire qu'ils ne distinguent pas clairement dans ce genre de contexte une nécessité proprement logique qui n'a rien à voir avec l'opération des causes efficientes, ce qui fait qu'une proposition comme 2 plus 2 égale 4 est vraie, et même nécessairement vraie, n'a pas, je crois, grand-chose à voir avec l'intervention des coefficients. Donc c'est quelque chose, c'est une proposition qui a un statut différent de celui d'une vérité nécessaire de la physique. Mais en tout cas, le point commun, si vous voulez, entre ces deux espèces de nécessité, disons la nécessité qu'on peut appeler logique, géométrique ou métaphysique, au sens strict, hein, c'est-à-dire la nécessité des propositions mathématiques, par exemple, et la nécessité physique, c'est que ces deux espèces de nécessité sont aveugles, hein, par opposition à la nécessité morale. Mais c'est un petit peu étrange, si vous voulez, de dire que toutes les vérités qui possèdent une nécessité de l'espèce que Leibniz appelle absolue, métaphysique ou géométrique, ne dépendent pour leur vérité que des coefficients. Quoi qu'il en soit, en second lieu, donc, il y a une nécessité morale qui vient du choix libre de la sagesse par rapport aux causes finales, et enfin, en troisième lieu, quelque chose d'arbitraire, absolument dépendant d'une indifférence d'équilibre qu'on se figure, mais qui ne saurait exister, où il n'y a aucune raison suffisante, ni dans la cause efficiente, ni dans la finale. Et par conséquent, on a tort de confondre ou ce qui est absolument nécessaire avec ce qui est déterminé par la raison du meilleur, ou la liberté qui se détermine par la raison avec une indifférence vague. Bon, je ne reviens pas sur la question sur le problème de la liberté. Ce qu'il faut retenir, donc, c'est que c'est le genre de position intermédiaire que Leibniz essaie de trouver pour les lois de la nature. Hein. Donc, il les situe quelque part entre la nécessité absolue, celle des propositions de la logique et des mathématiques, notamment. Soit dit en passant, il y a aussi des vérités morales hein, qui sont nécessaires. Je n'ai pas insisté là-dessus, mais le domaine des vérités nécessaires ne contient pas uniquement les vérités logico-mathématiques. Il contient un bon nombre d'autres vérités, au nombre desquelles figurent des vérités morales. Alors, en ce qui concerne la question de la concordance entre les causes efficientes et les causes finales, je vous ai traduit un passage. Qui commence dans la deuxième partie de la page. Alors, non. Voilà. Il s'agit à nouveau donc d'une critique formulée contre les contempteurs des causes finales, c'est-à-dire les gens comme Descartes, Spinoza et Hobbes. Ainsi, dit Leibniz, hein, il décrétait, ita enim statuebant, il décrétait que les causes finales doivent être éliminées de la nature comme n'étant pas naturelles, mais morales et imaginées par nous. Donc, il les percevait comme étant plus ou moins de la nature de fiction anthropomorphique. Hein. Il décrétait que les causes finales doivent être éliminées de la nature comme n'étant pas naturelles, mais morales et imaginées par nous, qui nous livrons à une estimation de la nature à partir de nos propres dispositions. Donc l'utilisation des causes finales, il revient à juger la nature selon nos propres critères et à lui imposer un mode de comportement qui est conçu sur le modèle du nôtre. Donc il décrétait que les causes finales doivent être éliminées de la nature comme n'étant pas naturelles mais morales et imaginées par nous, qui nous livrons à une estimation de la nature à partir de nos propres dispositions. Il décrétait que tous les possibles sont tirés du sein de la nature selon un certain ordre nécessaire. Aussi, ce que nous imaginons à propos de la sagesse et du discernement de la providence est-il vain, ou bien il n'y a pas de Dieu, ou bien il n'est rien d'autre que cette force qui produit les possibles selon un ordre nécessaire. Quant à l'ordre en question, il consiste dans les lois mathématiques. Nos esprits ou bien sont corporels, ou bien s'éteignent avec les corps, ou du moins ils oublient tout, comme c'est l'opinion de quelques-uns d'entre eux, et retournent à l'âme du monde. Pour ma part, au contraire, je soutenais que même les causes finales peuvent être rapportées aux efficientes, étant donné que quand l'agent est intelligent, il est alors mu par la connaissance, et même les causes morales sont naturelles. Donc l'idée que Leibniz développe ici, c'est l'idée que les causes morales sont bel et bien efficientes. Les causes finales sont efficientes. Il y a une efficience des causes morales. Elles sont efficientes et elles sont naturelles, hein, parce que, évidemment, ça fait partie de la nature de l'être intelligent que de pouvoir produire des effets simplement par l'exercice de l'intelligence. Donc, pour ma part, au contraire, je soutenais que même les causes finales peuvent être rapportées aux efficientes, étant donné que quand l'agent est intelligent, il est alors mu par la connaissance. Donc, oui, la connaissance se comporte réellement comme une force motrice, hein, presque littéralement. Quand l'agent est intelligent, il est alors mu par la connaissance, et même les causes morales sont naturelles, car elles sont empruntées à la nature de l'esprit. C'est pourquoi, si toutes les choses sont gouvernées par l'esprit, la production et la conservation des choses ne sera pas nécessaire et aveugle, mais libre et pleine de sagesse, ce dont procèdent déjà les éléments de piété et de justice. Et je ne rejette pas les lois mathématiques dans les choses physiques, et je reconnais volontiers que, donc je reconnais volontiers que les actions des corps varient les unes par rapport aux autres, selon la grandeur et la figure, mais la substance des corps elle-même et ce qui agit et pâtit dans les corps, cela implique des notions bien différentes de la grandeur et de la figure. Il nous faut donc revenir aux anciens qui ont posé certaines formes substantielles. Je leur montrais, donc c'est le passage que je vous ai cité déjà tout à l'heure, hein, je leur montrais à ces partisans des... Enfin non, c'est un passage qui est un peu différent, mais qui défend exactement le même genre d'idée. Je leur montrais aux adversaires des causes finales que les lois mécaniques elles-mêmes ne découlent pas de principes géométriques, mais de principes métaphysiques, et que si toute chose n'était pas gouvernée par un esprit, elle serait bien différente de ce que nous expérimentons. Si, excusez-moi, c'est bien le passage que je vous ai cité il y a un instant. Alors, en ce qui concerne le problème de la nécessité morale, dont je vous avais déjà parlé assez longuement, les nécessitaristes moraux insistent particulièrement sur la nécessité de bien distinguer la nécessité morale, non seulement de la nécessité logique, mais également de la nécessité physique. Alors, il y a eu de nombreuses discussions concernant, à l'époque, concernant la façon de faire la distinction entre ces trois espèces de nécessité. Alors, en général, la différence entre les trois espèces de nécessité, la nécessité logique, la nécessité physique et la nécessité morale, est présentée à peu près de la façon suivante. Un sujet est dans la nécessité métaphysique d'agir si, au cas où il ne le ferait pas, une contradiction se produirait. Donc la nécessité métaphysique, c'est ce dont la négation dans le comportement. Hein, c'est, le fait de, c'est une nécessité qui est telle que le fait d'agir d'une façon qui ne s'y conformerait pas entraînerait une contradiction. Une chose est dite physiquement nécessaire si elle ne peut pas ne pas se produire naturellement et sans un miracle. Donc si elle se produira nécessairement en vertu des lois de la nature, à moins que Dieu n'ait prévu dans le cas précis de faire une exception en vue de rendre les choses, si vous voulez, encore meilleures, c'est-à-dire en vue d'une amélioration au niveau du tout. Enfin, une chose est dite moralement nécessaire si elle se produit toujours ou presque toujours en vertu d'une inclination, comme par exemple celle qui nous amène à choisir le plus grand des biens qui se présente. Ça, c'est le genre de choses qu'on appelle nécessité morale. Donc, c'est la nécessité qui caractérise le genre de comportement qu'on observe quand, comme c'est le cas hein, la plupart du temps, nous choisissons le plus grand des biens qui se présente. Une chose moralement nécessaire peut très bien ne pas l'être physiquement, puisque le fait qu'elle n'ait pas lieu n'est pas forcément en contradiction avec une loi de la nature quelconque. Donc la nécessité, de la nécessité morale à la nécessité physique, la conséquence n'est pas bonne. Une chose peut être moralement nécessaire, elle n'est pas pour autant physiquement nécessaire, puisque, encore une fois, le fait qu'elle n'ait pas lieu n'entre pas forcément en contradiction avec une loi de la nature. Alors l'année dernière, je vous ai cité des textes d'où il ressort que Leibniz s'incline à considérer que l'esprit est moralement nécessité, au sens indiqué, tout en étant physiquement indifférent. C'est ce que suggèrent certains textes. Donc, l'esprit est moralement nécessité, il a évidemment une tendance générale qui, la plupart du temps, comme dit Leibniz, prévalente. Il a une tendance générale à choisir le plus grand bien qui se présente. Et ça correspond donc à ce qu'on a l'habitude d'appeler à l'époque la nécessité morale. Mais il y a simultanément des passages dans lesquels Leibniz se suggère, il ne dit pas toujours ça, hein, mais il y a un ensemble de passages où il dit que tout en étant moralement nécessité, l'esprit est physiquement indifférent, en ce sens qu'il n'existe pas de loi de la nature dont nous puissions espérer réussir à déduire ce qu'il fera, à déduire ce qu'il choisira. Il y a une très forte présomption que quelqu'un choisira dans tous les cas le plus grand bien apparent, mais aussi forte que puisse être l'apparence, il n'y a cependant pas de nécessité physique qu'il le fasse, c'est-à-dire qu'il choisisse le plus grand bien apparent. Il peut toujours encore, ne serait-ce que parce qu'il peut toujours encore y avoir une exception hein, dans le cas précis. Donc il n'y aurait pas, si vous voulez, dans ces conditions, de véritable nécessité physique. Il y aurait une nécessité qui est seulement morale. Alors, de toutes les discussions qu'il y a eu sur cette question, il y en a eu une quantité innombrable, il ressort ceci, que ceux qui ont regardé de près ce problème des trois espèces de nécessité et de la façon dont elles s'articulent entre elles, se sont demandé à quoi exactement s'oppose chez Leibniz la nécessité morale. Et ils ont suggéré trois espèces de réponses qui sont les suivantes. Premièrement, il y a des interprètes qui soutiennent que la nécessité morale chez Leibniz s'oppose uniquement à la nécessité métaphysique, c'est-à-dire, si vous voulez, à la nécessité spinoziste, hein, c'est-à-dire la nécessité qui est absolument stricte et en même temps aveugle, hein, la nécessité que Leibniz appelle logique, métaphysique ou géométrique, qu'il caractérise comme une nécessité aveugle. Alors donc, il y a donc ceux qui soutiennent que la nécessité morale s'oppose uniquement à ce type de nécessité. Il y a deuxièmement les interprètes qui soutiennent qu'elle s'oppose uniquement à la nécessitation aveugle. Et enfin, ceux qui soutiennent qu'elle s'oppose à la fois à la nécessitation métaphysique et à la nécessitation physique. Donc oui, il y a trois options possibles sur ce point. On peut dire que, si vous voulez, il est concevable, hein, que la nécessité morale s'oppose uniquement, disons, à la nécessité logique, si vous voulez, pour rendre les choses un peu plus faciles à comprendre. Elle s'oppose uniquement à la nécessité logique. Il est concevable qu'elle s'oppose à la nécessité aveugle en général, hein, ce qui voudrait dire qu'elle s'oppose pas seulement à la nécessité logique, mais également à la nécessité physique, puisque ces deux espèces de nécessité sont aveugles. Et enfin, il y a la possibilité qu'elle s'oppose simultanément aux deux espèces de nécessité, la nécessité métaphysique et la nécessitation physique. La nécessitation métaphysique et la nécessitation physique. Alors, parmi les auteurs dont j'ai déjà eu l'occasion de vous parler, on peut dire que Robert Slay, que j'ai cité l'année dernière, à cause du livre qu'il a consacré à Leibniz et Arnaud, donc à la correspondance entre Leibniz et Arnaud. Alors, Robert Slay opte, lui, pour un, c'est-à-dire la nécessité morale s'oppose uniquement à la nécessité métaphysique, mais elle est compatible avec la nécessité physique. Robert Adams opte pour deux, donc Robert Slay opte pour un, Robert Adams opte pour deux, c'est-à-dire la nécessité morale s'oppose uniquement à la nécessité aveugle, et enfin, Michael Murray opte, lui, pour la réponse 3, hein, c'est-à-dire la nécessité morale s'oppose à la fois à la nécessitation métaphysique et à la nécessitation physique. Alors, ce que Adam s'entend par la nécessitation aveugle, je vous ai dit qu'il optait pour la réponse 2, c'est-à-dire la nécessité morale s'oppose uniquement à la nécessitation aveugle. Alors, ce qu'il entend par la nécessitation aveugle est la nécessitation qui opère sans passer par la prise en considération de valeurs quelconques. Selon lui, ce qui choque Leibniz n'est pas tant le nécessitarisme que le caractère aveugle de la nécessité. Donc, ce qui est important, ce qui est gênant dans le fait d'être nécessité, ce n'est pas le fait d'être nécessité, mais c'est le fait de l'être de façon aveugle. Autrement dit, d'une façon qui ne fait intervenir en aucune façon la valeur, l'intelligence, le choix, etc. Par conséquent, Robert Adams, donc, qui encore une fois choisit l'option 2, rejette la nécessité métaphysique et la nécessité physique aussi bien dans le choix humain que dans le choix divin, non pas parce qu'elles sont nécessitantes, mais parce qu'elles ne nécessitent pas par la voie du bien et de la perfection. C'est ça, d'après lui, qui gêne véritablement Leibniz. Non pas qu'il y ait nécessité, mais qu'il y ait un type de nécessité qui est, comme il dit, aveugle, ce qui veut dire donc un type de nécessité qui opère sans intervention du bien et de la perfection, sans prise en considération du bien et de la perfection. Alors, je dois vous avouer que, en dépit de toutes les lectures que j'ai pu faire, je n'ai pas réussi à me faire une opinion arrêtée sur cette question, c'est-à-dire la question de savoir quelle est la réponse qu'il faut donner à cette question, à quoi s'oppose exactement chez Leibniz la nécessité morale, est-ce uniquement à la nécessité métaphysique, uniquement à la nécessitation aveugle, hein, c'est-à-dire qu'il s'agisse de la nécessitation métaphysique ou la nécessitation physique, ou bien est-ce que c'est aux deux simultanément, c'est-à-dire à la nécessitation métaphysique et à la nécessitation physique. Alors, ce qui rend quelque peu difficile à accepter l'option 2, c'est-à-dire l'idée que la nécessité morale chez Leibniz s'oppose uniquement à la nécessité aveugle, ce qui rend quelque peu difficile à accepter cette option 2, c'est le fait qu'il y a tout de même un bon nombre de textes qui suggèrent que Leibniz a des difficultés, non pas seulement avec le caractère aveugle de la nécessité, mais également avec la nécessité elle-même, qui peut sembler effectivement constituer une menace pour la liberté. Alors, ce qui parle en faveur de l'option 1, c'est-à-dire l'idée que la nécessité morale s'oppose uniquement à la nécessité que Leibniz appelle logique ou métaphysique, logique géométrique ou métaphysique, ce qui parle en faveur de ce type de réponse, c'est le fait que, on s'en est rendu compte, Leibniz affirme régulièrement, et il le fait souvent avec insistance, que la seule forme de nécessité qui est susceptible de menacer réellement la liberté est la nécessité logique ou métaphysique. Donc il y a de nombreux textes qui semblent imposer plus ou moins ce type de réponse. La réponse 1, c'est-à-dire la nécessité morale, ne peut être menacée que par l'espèce de nécessité que Leibniz appelle logique, métaphysique ou géométrique, et assez souvent, donc, il fait remarquer que du moment qu'il n'y a pas ce type de nécessité, la nécessité logique, géométrique ou métaphysique, il n'y a aucune menace pour la liberté. Par conséquent, dans cette hypothèse, la nécessité physique ne menace en aucune façon la liberté. Hein, ce qui la menace, encore une fois, est uniquement la nécessité logique, géométrique ou métaphysique. Alors, dans la théodicée, c'est bien ce que Leibniz dit et répète, hein, que, encore une fois, la seule forme de nécessitation qui est en mesure de menacer véritablement la liberté est la nécessité logique ou métaphysique. C'est ce qu'il affirme et c'est ce qu'il essaie, ce qu'il se propose, en tout cas, de démontrer. Alors, on pourrait évidemment objecter que c'est peut-être simplement parce qu'il essaie de parer au plus pressé et de se prémunir d'abord contre le danger le plus sérieux, à savoir le nécessitarisme spinoziste. Le nécessitarisme spinoziste qui est menaçant précisément parce qu'il réduit toute la nécessité concevable, hein, toute la nécessité qui peut exister à la nécessité logique. Et d'autre part, donc ça pourrait être la raison pour laquelle Leibniz insiste à ce point sur cet aspect. Et d'autre part, il ne semble pas y avoir, font remarquer les bons historiens, il ne semble pas y avoir à l'époque beaucoup de défenseurs du déterminisme causal des causes efficientes. Alors Michael Murray a des doutes sur la possibilité que l'option 1 représente la position réelle de Leibniz, en dépit de son insistance sur le fait que l'action libre ne comporte aucune nécessité qui soit de nature logique et du fait qu'il lui arrive de souligner que la nécessité physique et la nécessité morale sont d'une certaine façon équivalentes du point de vue modal et s'opposent toutes les deux à la nécessité logique, en ce sens qu'elles inclinent sans nécessité. C'est ce qui est suggéré notamment dans un passage des Nouveaux Essais que je vous avais déjà cité, où Leibniz dit non seulement les vérités contingentes ne sont point nécessaires, mais encore leurs liaisons ne sont pas toujours d'une nécessité absolue, car il faut avouer qu'il y a de la différence dans la manière de déterminer entre les conséquences qui ont lieu en matière nécessaire et celles qui ont lieu en matière contingente. Les conséquences géométriques et métaphysiques nécessitent, mais les conséquences physiques et morales inclinent sans nécessité. Le physique même ayant quelque chose de moral et de volontaire par rapport à Dieu, puisque les lois du mouvement n'ont point d'autre nécessité que celle du meilleur. Donc, là, Leibniz suggère que la nécessité physique est elle-même une forme de nécessité morale, hein, puisque cette nécessité ne peut exister telle qu'elle se manifeste, par exemple, hein, à travers l'opération des lois de la nature, cette nécessité ne peut exister qu'en vertu d'un choix qui avait une nécessité morale, c'est-à-dire qui était dictée par l'obligation de choisir le meilleur. Alors les choses deviennent assez rapidement très compliquées pour la raison suivante. On peut dire que les lois de la nature nécessitent ce qui a lieu dans l'ordre naturel, puisque ce sont les lois que Dieu a choisies en choisissant un monde possible, et qu'elles gouvernent les événements qui ont lieu dans ce monde-là, même s'il est vrai que la nécessité dont il s'agit n'est pas totale, puisqu'elles admettent des exceptions. Donc on peut dire que ce sont les lois en question, les lois de la nature, on peut dire, si on veut, hein, qu'elles nécessitent, mais encore une fois, ça n'exclut pas qu'elles puissent comporter des exceptions, puisqu'on a vu que Dieu peut avoir décidé à certains moments de l'existence d'exceptions, hein, constituées par les miracles. Mais néanmoins, bon, il n'est pas absurde, et ça ne constitue pas, certainement pas un abus de langage, de dire qu'il y a néanmoins une forme de nécessité qui correspond à l'opération des lois de la nature. Mais évidemment, ce n'est pas ce que je viens de dire, ce n'est pas la même question que celle qui consiste à se demander si la nécessité des lois dans ce sens-là est ou non elle-même nécessaire et en quel sens elle l'est. On dit, il y a deux questions. Il y a une question, est-ce qu'on peut dire que les lois qu'une forme de nécessité, qui serait en l'occurrence une nécessité physique, est-ce qu'on peut dire qu'une forme de nécessité s'exprime dans les lois de la nature, dans l'action des lois de la nature? Et puis, il y a une deuxième question qu'on peut se poser en montant d'un degré dans la hiérarchie, c'est est-ce que la nécessité des lois de la nature constitue elle-même une nécessité? C'est-à-dire, est-ce qu'il était nécessaire que ce soit ces lois-là qui soient en vigueur? Est-ce qu'il était nécessaire que la nécessité physique soit celle que nous observons, c'est-à-dire qu'elle soit ce que nous constatons quand nous observons le mode d'opération des lois de la nature? Alors, Leibniz répond à cette deuxième question que, justement, les lois de la nature ne sont pas nécessairement nécessaires. Il n'était pas nécessaire qu'elles soient ce qu'elles sont. Donc, si les lois de la nature avaient été différentes, autrement dit, si Dieu avait choisi de créer un autre parmi tous les mondes possibles qui se proposaient, s'il avait choisi d'en créer un autre, il y aurait des lois de la nature différentes, donc il y aurait des nécessités physiques différentes. Par conséquent, les nécessités que nous observons ne sont pas elles-mêmes nécessaires, si ce n'est au sens de la nécessité morale, précisément. Elles ne sont sûrement pas physiquement nécessaires. Il n'est pas physiquement nécessaire que les nécessités physiques soient ce qu'elles sont, et il n'est pas non plus logiquement nécessaire qu'elles soient ce qu'elles sont, puisqu'il n'aurait pas été logiquement contradictoire de la part de Dieu de choisir un monde possible différent avec des lois de la nature différentes, et donc des nécessités physiques différentes. Alors, ce qui est assez curieux, c'est que on peut donc parler, et Leibniz le fait, hein, on peut parler d'une nécessité morale de ces nécessités physiques, encore une fois, puisqu'elles correspondent à au choix d'un certain système de loi de la nature, hein, qui coïncide précisément avec celui du monde déterminé que Dieu a choisi de faire exister parmi tous les mondes possibles. Donc il y a eu un choix de ces nécessités physiques, un choix qui lui-même était gouverné par une forme de nécessité que Leibniz appelle une nécessité morale, mais il a une tendance assez caractéristique à faire redescendre la nécessité morale du deuxième niveau au premier. J'ai parlé de nécessité morale à propos du choix des lois de la nature, hein, telles que nous les connaissons. Donc il y avait le choix de ces lois résultait d'une nécessité morale. Mais Leibniz a tendance à faire redescendre la nécessité morale de ce niveau-là au premier niveau, c'est-à-dire que les lois physiques elles-mêmes ne sont au fond que moralement nécessaires, alors qu'il serait quand même plus satisfaisant, je crois plus leibnizien, plus exact du point de vue de Leibniz, de dire que c'est leur nécessité qui est une nécessité morale. Le fait qu'elles existent ne résulte de rien d'autre que d'une nécessité morale. Mais en tout cas, on peut constater que Leibniz a tendance à ne pas faire de différence, en tout cas ne pas faire une grande différence entre les deux types de questions. Au premier niveau, donc, vous avez les nécessités physiques qui nécessitent les événements dont elles gouvernent l'occurrence. Elles sont nécessitantes à l'égard des effets que nous cherchons à expliquer par leurs moyens. Elles sont nécessitantes à l'égard de ces effets. Et puis, donc, là, il est question à ce niveau que de la nécessité des effets. Et puis, à un niveau supérieur, donc si on monte d'un degré, il y a la question de la nécessité des lois. On peut se demander dans quelle mesure et en quel sens les lois elles-mêmes sont nécessaires. Et la réponse, là, elle est tout à fait claire. Elles sont nécessaires moralement. C'est-à-dire, elles sont ce qu'elles sont à cause du choix que Dieu a fait du meilleur. Mais Leibniz, encore une fois, donc, de façon générale, donc, n'hésite pas à faire redescendre la nécessité dont je suis en train de parler, celle du deuxième niveau, la nécessité de la nécessité des lois de la nature, il n'hésite pas à la faire redescendre au premier niveau, donc, et à parler d'une nécessité morale à propos du genre de nécessité que possèdent les nécessités physiques. Donc, comme vous voyez, c'est passablement compliqué. Alors, dans les passages comme celui des nouveaux essais que je viens de rappeler, Leibniz semble dire que non seulement les propositions contingentes, comme leur nom l'indique, ne sont pas nécessaires, mais encore les liaisons qui existent entre elles ne peuvent pas être non plus nécessaires. De sorte qu'il n'y a pas forcément, et il n'y a même peut-être jamais un lien nécessaire entre, par exemple, la proposition contingente qui affirme l'existence d'un désir déterminé dans l'âme, aussi fort qu'il puisse être, et celle qui décrit l'effectuation de l'action correspondante. Ça, c'est une question très importante. Est-ce qu'il y a une nécessité quelconque, hein, est-ce que le lien qui existe entre la proposition contingente qui affirme la présence, à un moment donné, d'un désir déterminé dans l'âme, hein, est-ce que la proposition qui affirme l'existence d'un lien entre ce désir présent à un moment donné, aussi fort qu'il puisse être, et la proposition, est-ce que le lien qui existe entre cette proposition-là et la proposition qui décrit l'effectuation de l'action correspondante est nécessaire, hein, en quelque sens que ce soit, et en quel sens l'est-il? Et la même chose est vraie sur ce point de la relation de conséquences physiques et de la relation de conséquences morales. Leibniz en parle assez souvent comme d'une relation qui peut difficilement être considérée comme une relation de nécessité au sens strict, hein, puisque assez souvent, donc, il parle d'une inclination qui ne nécessite pas. Donc, s'agit-il véritablement y a-t-il véritablement nécessitation? Apparemment non, puisque aussi fort que puisse être le désir, jusqu'au dernier moment, aussi fort que puisse être le désir, Leibniz a l'air de considérer qu'on ne peut pas affirmer que l'action s'en suivra nécessairement. Il y a toujours encore la possibilité qu'au tout dernier moment, on se ravise, stricto sensu, le seul moment à partir duquel on ne peut plus le faire, c'est le moment auquel l'action a déjà commencé. Mais tant que l'action n'a pas commencé, même si l'espace disponible, si on peut l'appeler ainsi, si tout l'espace disponible dans l'esprit est occupé par un désir extraordinairement fort qui fait obstacle à toute autre considération, il se peut encore qu'au tout dernier moment, il y a un facteur différent qui intervienne et qui fasse que l'action qu'on croirait normalement être en mesure, dont on croirait normalement être en mesure d'affirmer l'occurrence, d'affirmer qu'elle se produira à coup sûr, il se pourrait donc encore qu'elle n'ait pas lieu. Alors dans les deux cas, on a l'impression que donc on peut douter qu'il y ait une nécessité au sens strict, ce qui correspond bien d'ailleurs à ce que Leibniz dit et répète, à savoir qu'il y a inclination, mais non nécessitation. Et dans les deux cas du reste, si on se demande pourquoi telle ou telle chose étant donnée, telle ou telle autre en résulte normalement, la réponse dans l'esprit de Leibniz est en dernière analyse de nature morale. Malheureusement, comme le dit Murray, je vous ai traduit le passage, Leibniz formule parfois des assertions incompatibles et il nous reste à juger à partir de raisons systématiques quelle est la meilleure façon de comprendre ses intentions, toute chose dûment considérée. Il me semble que la prépondérance des textes pèse contre l'interprétation de Slade dans ce cas. Murray défend une position donc assez précise qui est que il défend donc l'option 3 et il estime que Leibniz a une raison théologique d'éprouver des doutes à propos de la compatibilité de la nécessité physique et de la liberté. Donc, ce qui caractérise la position de Murray, c'est le fait de dire que la liberté s'oppose pas seulement à la nécessité logique, géométrique ou métaphysique, mais également à la nécessité physique. Ce qui est un point qui est très difficile à décider parce que il y a des textes chez Leibniz qui suggèrent ce genre de choses, et puis il y en a même un bon nombre qui suggèrent aussi qu'au fond, la seule menace réelle, la seule chose qui pourrait représenter une menace réelle pour la liberté, c'est la nécessité logique et non pas la nécessité physique. Alors, la raison théologique que Leibniz a d'éprouver des doutes à propos de la compatibilité de la nécessité physique et de la liberté peut, d'un point de vue, être représentée de la manière suivante. Il dit ceci, Leibniz dépense des efforts considérables pour établir que la détermination causale des actes de la créature, par Dieu dans ce cas, est suffisante pour détourner la responsabilité de la créature et la reporter sur la cause ultime dans le cas de Dieu. Donc, dans ce cas, Dieu. Ce que ça veut dire, donc, est que Leibniz, semble-t-il, préadmettre, et même il insiste sur le fait que la détermination causale des actes de la créature par Dieu, la détermination en dernière analyse, des actes de la créature par Dieu, est suffisante pour détourner la responsabilité de la créature et la reporter sur la cause ultime, à savoir Dieu. Alors, le problème se pose de façon particulièrement aiguë dans le cas de la faute, dans le cas du péché, parce que il est clair que si Dieu pouvait être considéré comme la cause du péché, il en serait du même coup responsable, hein, c'est-à-dire la créature pécheresse serait en droit de se plaindre et dire qu'elle n'a rien fait d'autre que d'exécuter une chose qui avait été voulue par Dieu. Or, comme vous le savez, l'indice tient par-dessus tout à écarter la possibilité que Dieu ait pu vouloir le péché. Il a pu tout au plus le permettre. C'est-à-dire qu'il est la cause, si on veut, mais uniquement la cause permissive de la faute et du mal, en aucun cas la cause active, la cause effective et active. Alors, si Leibniz, dit Murray, se satisfaisait de la compatibilité de la liberté et du déterminisme causal, de telles inquiétudes n'apparaîtraient tout simplement jamais. C'est en effet assez convaincant. Si Leibniz était convaincu qu'il n'y a aucune espèce de difficulté pour concilier la liberté avec le déterminisme causal, le genre d'inquiétude et de scrupule dont il vient d'être question n'apparaîtrait pas chez lui. Et Murray en tire la conclusion suivante. C'est, me semble-t-il, dit-il, une preuve forte de l'existence de sympathies anticompatibilistes dans la pensée de Leibniz. Alors Murray s'exprime de façon un peu obscure, mais je pense que vous n'avez pas de difficulté à comprendre de quoi il retourne. Il s'agit de savoir si Leibniz est un compatibiliste aussi serein et aussi strict qu'on a tendance à le croire. Je l'ai présenté moi-même assez souvent comme ça, suggérant plus ou moins qu'il ne voyait pas de difficulté réelle dans l'idée d'une conciliation possible entre le déterminisme et la liberté. Mais il est incontestable qu'il y a aussi chez lui des tendances anticompatibilistes qui se manifestent à certains moments et qui, évidemment, auraient pu le pousser à accepter l'idée qu'il n'est pas possible de concilier réellement la liberté avec le déterminisme physique, c'est-à-dire que la liberté pourrait finalement, dans son esprit, il pourrait y avoir eu dans son esprit des difficultés à concilier la liberté non seulement avec la nécessité logique, là, il n'y a aucune possibilité de conciliation, mais également avec la nécessité physique. Donc, dit Murray, c'est, me semble-t-il, une preuve forte de l'existence de sympathies anticompatibilistes dans la pensée de Leibniz, qui plus est, quels que soient les arguments qui peuvent être invoqués contre le déterminisme divin, ils peuvent également être employés avec force contre le déterminisme causal efficient de l'espèce ordinaire dans le choix. Donc, si on admet que dans l'hypothèse où les actions de la créature, en particulier ses fautes, en particulier les péchés, sont déterminées de façon causale, d'une façon qui finalement oblige à les rapporter en dernier ressort à Dieu, alors évidemment la responsabilité se trouve du même coup détournée, se trouve reportée sur Dieu, mais si on est prêt à considérer les choses de cette manière, on sera probablement enclin à voir également une difficulté pour la liberté, dans l'existence du déterminisme causal de l'espèce le plus ordinaire, c'est-à-dire celui qui règne dans la nature. Et ça peut donc inciter à chercher la réponse plutôt du côté de l'incompatibilisme. Donc, pour empêcher cela, conclut Murray, on aurait besoin d'un amortisseur analogue à celui que Leibniz installe entre Dieu et les créatures. La nécessité morale des jésuites fournit précisément un amortisseur de cette sorte. Si c'est vrai, la conclusion de cela est que Leibniz est plutôt un compatibiliste mitigé que le compatibiliste pur et dur qu'il donne souvent l'impression d'être et pour lequel on le prend généralement. Et l'acceptabilité de sa position dépend de façon essentielle de la possibilité de trouver une place pour une modalité plus faible que la nécessité physique, à savoir la nécessité morale, telle que Leibniz se l'approprie. Ça, c'est une solution, une réponse possible à la question posée, c'est-à-dire il y aurait... Il faudrait réellement distinguer trois espèces de nécessités qui se comportent de façon différente à l'égard de la liberté. La nécessité logique, qui est logique de l'espèce, logique géométrique ou métaphysique, qui elle exclut catégoriquement la liberté, donc c'est absolument impossible à concilier avec la liberté. La nécessité physique, qui est ou n'est pas compatible avec la liberté. Et si elle ne l'est pas, alors à ce moment-là, la solution est à chercher du côté d'un type de nécessité qui constitue une modalité plus faible que la nécessité physique, c'est-à-dire la nécessité morale, qui serait la seule forme de nécessité. Donc cette nécessité plus faible que la nécessité physique, la nécessité morale serait la seule forme de nécessité qu'on peut espérer réconcilier véritablement avec la liberté. Alors, il y a un dernier point que je voudrais commencer à aborder aujourd'hui. Je le ferai en citant un livre d'André Charac, consacré au problème de la contingence des lois de la nature. D'après lui, il y a un débat qui a une importance centrale à l'époque des Lumières et dont le XVIIIe siècle a hérité directement de Leibniz, un débat qui est lié étroitement à la question du rôle que les causes finales sont susceptibles de jouer dans l'explication des phénomènes. Et ce débat porte, donc qui est lié de façon tout à fait directe au problème de l'intervention des causes finales dans l'explication des phénomènes, ce débat, c'est celui qui porte sur la contingence des lois de la nature. Alors, j'ai déjà donné donc des raisons très claires de considérer que, du point de vue de Leibniz, les lois de la nature sont contingentes. Elles sont contingentes puisqu'il n'y avait pas de... Il n'y a pas de raison autre que le choix du meilleur qui pouvait obliger Dieu à les choisir comme il l'a fait. Donc, elles sont contingentes. Alors, André Charac dit ceci dans un livre qui s'intitule « Contingence et nécessité des lois de la nature au XVIIIe siècle ». Alors, l'importance de Leibniz provient du fait que, comme André Charac le montre, et je crois que c'est assez évident, tout à fait incontestable, tout ce débat, au fond, est vraiment hérité de Leibniz. C'est Leibniz qui est à l'origine de ce débat sur la contingence des lois de la nature. André Charac dit ceci, « Il est patent que les auteurs des Lumières, lorsqu'ils posent la question de la contingence ou de la nécessité des lois de la physique, ne se réfèrent directement qu'à la tradition leibnizienne. Tout à la fois parce que l'examen technique des modalités, acquiert dans ce contexte une portée métaphysique décisive, c'est-à-dire la question de la modalité devient importante dans ce contexte, et parce que les procédures méthodologiques mobilisées dans l'établissement des lois, avec et après Leibniz, engagent directement leur statut modal. Il va de soi que plusieurs thèses cartésiennes, portant par exemple sur l'apparente nécessité de la formation du monde à partir du chaos primitif, donc plusieurs thèses leibniziennes, mais aussi spinozistes, seront abordées par ce biais dans les ouvrages du XVIIIe siècle. Reste que la figure de Leibniz constitue indéniablement le point de départ de l'histoire qui nous intéresse. Donc effectivement, Leibniz est le point de départ de tout ce débat sur la contingence des lois de la nature. C'est un débat qui s'est poursuivi bien après. Il y a eu toute une controverse entre Poincaré et Boutroux, si je me souviens bien. Je crois d'ailleurs que Boutroux était tout simplement le beau-frère de Poincaré. Boutroux avait défendu l'idée de la contingence des lois de la nature et soulignant qu'elle pourrait tout à fait être autre et qu'elles ne sont, et même qu'elles pourraient devenir autres, hein, c'est-à-dire que les lois de la nature pourraient changer à un moment donné. Poincaré s'est opposé violemment à ça. Je signale ce point simplement pour vous indiquer donc que ce débat est loin d'être terminé. Je vous avais cité le passage de la Théodicée dans lequel Leibniz caractérise la position intermédiaire qu'occupent les lois de la nature à mi-chemin entre la nécessité absolue et l'arbitraire complet. Donc c'est le passage où il dit donc les lois de la nature que Dieu a prescrites, fondées sur la convenance, tiennent le milieu entre les vérités géométriques absolument nécessaires et les décrets arbitraires. Autrement dit, donc elles occupent une position intermédiaire entre des vérités absolument nécessaires et ce qu'on peut appeler des conventions arbitraires. Elles impliquent bien un élément de décision, pour Leibniz, un élément de décision qui correspond au fait qu'elles s'appliquent à un monde qui est le résultat d'un acte de création, mais la décision dont il s'agit n'a rien d'arbitraire et était justifiée par de bonnes raisons. Donc, n'ont rien à voir avec des conventions qui reposeraient sur un choix plus ou moins arbitraire. Donc, leur choix a été justifié par de bonnes et excellentes raisons. Alors, le choix de la nécessité géométrique pour les lois de la nature est celui, donc le choix de la nécessité géométrique, c'est-à-dire d'une forme de nécessité absolue pour les lois de la nature, est celui qui a été fait d'après Leibniz par Spinoza. Donc, il a fait le choix de la nécessité géométrique et le choix de l'arbitraire est celui qui a été fait par Descartes. Donc, quand il essaie d'assigner, il assigne en fait aux lois de la nature une position intermédiaire entre celle des nécessités absolues, qui sont de type logico-mathématique, et celle de décret arbitraire, pour reprendre son expression. Il a en tête évidemment des adversaires précis, ceux qui attribuent la nécessité logique ou géométrique, c'est-à-dire une nécessité absolue aux lois de la nature, ce sont les gens comme Spinoza, et ceux qui les identifient plus ou moins à des décrets arbitraires, ou en tout cas les fonds résultés de décrets arbitraires sont les gens qui se situent du côté de Descartes. C'est-à-dire que, en fait, on pourrait même aller jusqu'à dire que Descartes est allé plus loin que ce qui est suggéré dans ce passage, puisqu'il résulte de la théorie de la création des vérités éternelles que même les vérités de la logique et des mathématiques résultent d'un décret qui doit être rapporté à la volonté de Dieu et non à son entendement. Ce que, j'ai eu l'occasion d'y insister, Leibniz trouve totalement pervers, cette façon de faire reposer les vérités éternelles, non plus sur, comme on le faisait jusqu'alors, comme le faisaient tous les gens sensés et honnêtes, sur l'entendement de Dieu, mais sur sa volonté. Donc, il n'y a pas seulement les lois de la nature qui sont affectées d'un certain coefficient d'arbitraire. Il y a également les vérités logiques et mathématiques le sont aussi. Donc, si ce que dit Descartes doit être pris à la lettre, même les vérités géométriques, ne possèdent pas plus que les lois de la nature une nécessité absolue. Et elles auraient pu être différentes si Dieu avait fait sur ce point un choix différent. Comme nous l'avons vu, les lois de la nature sont, pour Leibniz, fondées sur la convenance. Et il y a un lien direct entre cela et leur statut modal, à savoir le fait qu'elles soient contingentes. Elles ont été choisies en fonction de considérations qui font intervenir le principe du meilleur, et elles auraient pu être différentes si le choix qui a été fait avait été moins bon. Donc, il n'y a pas de nécessité logique que ce soit ces lois-là qui soient en vigueur. Donc, les nécessités qui correspondent aux lois de la nature n'étaient pas logiquement nécessaires. Elles étaient seulement moralement nécessaires. Alors, Leibniz estime avoir réussi à démontrer contre Descartes que la quantité qui se conserve n'est pas la quantité de mouvement, MV, mais la quantité, ce qu'on appelle à l'époque la quantité de force vive, MV2. Mais ce qu'affirme Descartes pourrait éventuellement être vrai si Dieu avait choisi de créer un monde physique différent. C'est-à-dire la quantité qui se conserve, Leibniz estime avoir été en mesure de le démontrer rigoureusement contre Descartes, la quantité qui se conserve est la quantité de force vive, MV2, et non la quantité de mouvement, MV, mais un monde possible dans lequel la quantité qui se conserve aurait été la quantité MV, celle de Descartes, un monde de cette sorte est un monde qui aurait pu exister. Simplement, si Dieu avait choisi de créer ce monde-là, il aurait créé un monde moins bon. Certes, en tout cas, ce que Leibniz estime avoir été en mesure de montrer. Alors, comme le dit André Charac, les lois de la nature que Dieu lui a prescrites, fondées sur la convenance, tiennent le milieu... Pardon, excusez-moi, c'est pas ça que je voulais vous montrer. Les lois de la nature sont irréductibles à la nécessité brute parce qu'elles supposent, pour être établies, des principes architectoniques qui ne relèvent pas de la seule géométrie. Le meilleur exemple est celui du principe de continuité. Mais là, vous voyez qu'on est confronté directement à la difficulté que j'évoquais au début. Quel est exactement le type de loi qui requiert une explication de cette sorte, c'est-à-dire une explication qui renvoie directement au choix du meilleur, qui invoque directement le principe de meilleur. Est-ce que ce sont les lois ordinaires, par exemple les lois du mouvement, ou bien est-ce que ce ne sont pas plutôt ce que Leibniz lui-même appelle les principes généraux de la nature, c'est-à-dire des principes comme le principe de continuité, ou les principes de maximum et de minimum, etc. Est-ce que ce sont les lois elles-mêmes, ou est-ce que ce ne sont pas plutôt ces principes-là qui requièrent une explication directe en termes de cause finale, en termes de choix du meilleur? Alors Leibniz souligne lui-même tout à fait clairement le point dont il est question dans ce passage du livre d'André Charac. Il souligne tout à fait clairement ce point crucial. Il mentionne à plusieurs reprises le principe de continuité pour, dit-il, montrer qu'on ne les saurait dériver, donc les lois de la nature, on ne les saurait dériver de leur source qu'en supposant des raisons architectoniques. Donc si on veut rendre compte des lois, ce qu'il faut peut-être s'interdire de faire, un positiviste conséquent vous dira que tout ce qu'on peut essayer de faire, c'est de savoir quelles sont les lois réelles, surtout pas d'essayer d'expliquer pourquoi les lois sont ce qu'elles sont. Et là, il y a évidemment un point de désaccord majeur. Leibniz, c'est quelqu'un qui se reconnaît sans aucune difficulté, sans aucun problème, le droit de poser cette question de la raison des lois. Pourquoi les lois sont-elles ce qu'elles sont ? Les lois expliquent pourquoi les événements se déroulent comme ils le font. Doit-on se contenter d'obtenir une réponse en termes de loi à la question de savoir pourquoi les phénomènes naturels s'enchaînent comme ils le font ? Est-ce qu'on doit se contenter de ça ? Ou bien est-ce qu'on a aussi le droit de se poser la question de savoir pourquoi les lois sont ce qu'elles sont plutôt que sont ces lois-là plutôt que d'autres. Donc Leibniz souligne que les lois de la nature, on ne les saurait dériver, citation, de leur source qu'en supposant des raisons architectoniques, une des plus considérables que je crois avoir introduites. Ah ben je crois que je vous avais. Oui. Les lois, donc on ne les saurait dériver de leur source qu'en supposant des raisons architectoniques. Une des plus considérables que je crois avoir introduites le premier dans la physique est la loi de continuité dont j'ai parlé il y a plusieurs années dans les Nouvelles de la République des Lettres, où j'ai montré par des exemples comment elle sert de pierre de touche des dogmes. Donc, il est tout à fait exact, que, comme le dit André Charac, que si nous voulons expliquer certaines lois, enfin, expliquer, rendre compte de la raison pour laquelle certaines lois sont en vigueur plutôt que d'autres, il faut faire intervenir des principes architectoniques, c'est-à-dire des principes qui ont trait à la conception de l'ensemble. Donc, si on veut comprendre pourquoi les lois du mouvement sont ce qu'elles sont, il faut faire intervenir ce que Leibniz appelle des principes architectoniques, comme par exemple le principe de continuité. Ce genre de principe, il effectue déjà une sélection extrêmement sévère entre les lois, hein, des lois qui violeraient certains principes généraux de la nature. Les principes généraux de la nature, ce ne sont que des lois d'une espèce plus générale, hein, qui ont pour effet d'effectuer une sélection sévère entre les lois de degré inférieur, par exemple les lois du mouvement. Donc elles rendent impossible. Si on veut que le principe de continuité soit respecté, il y a toute une série de lois du mouvement qui vont devenir impossibles. Donc, si on veut justifier les lois du mouvement telles qu'elles sont, il faut faire intervenir des principes architectoniques, comme le principe de continuité. Et si on veut comprendre pourquoi les principes architectoniques eux-mêmes sont ce qu'ils sont, il faut faire intervenir un principe général qui est un principe d'ordre, d'harmonie, et de perfection. Donc, les principes généraux de la nature, pour les justifier, on est obligé d'invoquer évidemment un principe suprême, hein, qui est le principe du meilleur, c'est-à-dire le principe qui imposait à Dieu de créer un monde comportant le maximum d'ordre, d'harmonie et de perfection. Par exemple, un monde dans lequel il y aurait du vide et des atomes serait en contradiction avec le principe de continuité. Mais ce qu'il a fait exclure n'est pas qu'il est impossible absolument parlant, mais seulement qu'il serait moins bon. Donc c'est le principe du meilleur, celui qui oblige à préférer un univers qui respecte le principe de continuité à un univers qui ne le ferait pas, c'est-à-dire un univers dans lequel il y aurait du vide et des atomes. C'est tout au moins de cette façon que Leibniz voit les choses. Comme le fait remarquer André Charac, la question du statut modal des lois de la nature, c'est-à-dire sont-elles nécessaires, sont-elles contingentes, cette question du statut modal des lois de la nature se pose chez Leibniz dans le cadre d'une théorie des mondes possibles, qui traite le monde réel comme le résultat d'un choix qui aurait pu être différent. Cette façon de considérer les choses suscite, comme on pouvait s'y attendre, l'hostilité de tous ceux qui pensent que la seule chose à laquelle nous pouvons légitimement prétendre est la connaissance des lois qui régissent le comportement des phénomènes naturels et non l'explication des raisons pour lesquelles elles sont ce qu'elles sont. C'est la réaction des gens que j'ai qualifié tout à l'heure de positivistes, parce que souvent on les qualifie de cette manière. Donc ce sont des gens qui estiment que nous ne pouvons rien faire de plus que d'essayer de trouver les lois auxquelles obéit le comportement des objets du monde physique, mais nous ne devons surtout pas prétendre expliquer pourquoi les lois sont ce qu'elles sont. Donc ce à quoi nous devons nous intéresser est uniquement les lois réelles et non les lois qui auraient pu éventuellement avoir cours à leur place. C'est un des principes de base de ce qu'on appelle la philosophie expérimentale au XVIIIe siècle. C'est un des principes de base de ce type de philosophie qu'il faut s'en tenir aux lois réelles et s'abstenir de spéculer sur des lois possibles. Alors ça apparaît très, très clairement dans la préface que Roger Côte a écrite pour les principes mathématiques de la philosophie naturelle de Newton. Donc il défend très clairement ce point de vue. Il dit ceci: Une vraie philosophie ne doit employer dans l'explication de la nature que des causes vraiment existantes. Elle ne doit point chercher les lois par lesquelles le Tout-Puissant aurait pu produire l'ordre admirable qui règne dans l'univers, s'il avait jugé à propos de les employer, mais seulement celles qu'il a réellement faites par un acte libre de sa volonté. Vous voyez, là, c'est parfaitement clair. Abstenez-vous radicalement de spéculer sur ce qu'auraient pu être les lois. Estimez-vous déjà très heureux d'avoir pu trouver ce qu'elles sont. Ne vous interrogez surtout pas sur ce qu'elles auraient pu être. Donc la vraie cause pour un philosophe, elle ne doit pas chercher les lois par lesquels la vraie philosophie, nous devons chercher les lois par lesquelles le Tout-Puissant aurait pu produire l'ordre admirable qui règne dans cet univers s'il avait jugé à propos de les employer, mais seulement celles qu'il a réellement faites par un acte libre de sa volonté. La vraie cause pour un philosophe est celle qui produit actuellement l'effet dont il est question. La bonne philosophie n'en reconnaît point d'autre. Donc il ne faut pas spéculer sur des lois possibles et sur des causes possibles, puisque bien sûr, à des lois différentes auraient correspondu, ça va presque de soi, donc auraient correspondu des causes différentes et un type de causalité différent. Alors je crois cependant qu'il y a deux questions ici très différentes qui entrent en jeu et qu'il est important de distinguer. Il y a d'abord le problème de la méfiance bien connue que Newton et ses partisans manifestent à l'égard des hypothèses en général, ces fameux hypothèses non fingo. Donc il y a une méfiance caractéristique qui est exprimée tout à fait clairement à l'égard des hypothèses en général. La tâche de la philosophie expérimentale consiste pour les philosophes de cette école à essayer de découvrir les lois selon lesquelles les corps s'attirent, ce que Newton fait avec succès. Donc il s'agit de trouver les lois selon lesquelles les corps s'attirent, et il ne s'agit nullement de spéculer sur les causes possibles de l'attraction, hein, ce que Newton se refuse tout à fait ouvertement à faire. Donc, et c'est évidemment un aspect important de ce qu'il veut dire quand il dit qu'il ne formule pas d'hypothèse. Alors, que se passe-t-il en effet si on commence à spéculer sur les causes possibles de l'attraction, sur les causes possibles d'un phénomène comme l'attraction, qui à l'époque, évidemment, conserve quelque chose de passablement mystérieux? Que se passe-t-il si on commence à spéculer sur les causes de ce phénomène? Eh bien, on se trouve à peu près inévitablement confronté à une pluralité d'hypothèses rivales que la philosophie expérimentale n'est pas en mesure de départager et dont elle n'a par conséquent pas à se préoccuper. Dans une situation de cette sorte, on ne pourrait pas se trouver entraîné dans une confrontation impossible à décider, hein, entre différentes espèces d'hypothèses explicatives. Ben, le mieux à faire, c'est de s'abstenir tout simplement de formuler des hypothèses. Donc, il faut décrire les lois, essayer de formuler les lois selon lesquelles les corps s'attirent. Il faut s'abstenir de spéculer sur les causes de l'attraction. Alors ça, c'est le premier problème, c'est-à-dire la méfiance à l'égard des hypothèses en général. Puis il y a un deuxième problème qui est de nature différente. C'est celui qui concerne la légitimité du questionnement qui a trait à la possibilité que les lois elles-mêmes aient été différentes de ce qu'elles sont. Et je crois que c'est un autre problème. C'est le problème, est-ce qu'on a le droit, hein, est-ce qu'il est légitime de se poser la question de savoir si les lois de la nature, telles que nous les connaissons, n'auraient pas pu être différentes? Est-ce que d'autres lois possibles étaient envisageables et auraient pu être en vigueur à leur place? Alors, ce qui n'est pas contestable, en revanche, c'est que sur le deuxième type de question, donc les lois de la nature auraient pu être autres qu'elles ne sont, le XVIIIe siècle a cessé pour l'essentiel de raisonner de façon leibnizienne. Ce qui, traduit en clair, signifie, André Charak insiste là-dessus avec raison, ce qui signifie que la métaphysique de Leibniz est loin d'avoir suscité le même intérêt que sa physique. C'est du reste déjà très évident chez les Berdouillis, par exemple, on voit bien qu'ils sont... La science de Leibniz, ses mathématiques, sa physique, les excite au plus haut point, mais il manifeste en général assez peu d'empressement à le suivre dans ses conclusions métaphysiques. Et tout le XVIIIe siècle, bon, d'une certaine manière, a réagi un peu de la même façon. C'est ce que André Charak souligne quand il dit « C'est bien l'histoire de l'occultation de la référence au monde possible et du même coup une redéfinition des tâches de la cosmologie qui vont marquer au siècle des Lumières les débats sur le statut modal des lois de la nature ». Alors, une chose que je voudrais signaler encore sur ce point, si vous m'accordez encore juste quelques minutes, c'est le point de vue défendu par Maupertuis. Je vous en parlerai peut-être un peu plus longuement la prochaine fois, si j'ai le temps. Maupertuis, bon, s'est illustré en formulant pour la première fois ce qu'on appelle le principe de moindre action. Il a fait ça dans un mémoire, si je me souviens bien, de 1744, qui a donné lieu à une querelle de priorité extrêmement déplaisante entre lui et Leibniz. Je ne veux pas dire entre lui et Leibniz au sens strict, parce que Leibniz était mort depuis un bon moment, depuis 1716, mais un des collègues de Maupertuis à l'Académie des sciences de Berlin, qui s'appelait Koenig, a soutenu que Leibniz avait, que Maupertuis avait tout simplement plagié Leibniz, c'est-à-dire que Leibniz avait déjà formulé le principe de moindre action avant Maupertuis, et donc en fait Maupertuis s'était simplement inspiré de sa découverte, elle lui avait plus ou moins dérobé. Malheureusement, Koenig s'est appuyé pour affirmer ce genre de choses sur une lettre dont il n'a jamais été en mesure de produire l'original, ce qui fait que la question est restée indécidé. Bon, en général, les gens bien informés semblent penser que c'est bel et bien Maupertuis qui, le premier, a formulé le principe de moindre action. Mais évidemment, il était assez tentant, celui de chercher, et peut-être au prix d'une certaine malhonnêteté, de trouver des anticipations de ça chez Leibniz, parce qu'on voit très bien que c'est un principe dont la forme même a quelque chose de leibnizien, hein, y compris celui dans cette espèce de recours, dans le recours apparent à la téléologie, hein, c'est-à-dire l'idée que la nature, dans les transformations qui s'opèrent, poursuit une certaine fin, c'est-à-dire celle qui consiste à minimiser la dépense de ce qu'on appelle l'action, hein, c'est-à-dire à faire en sorte que la quantité d'action dépensée soit minimale. Enfin, ça, bon, c'est un problème historique qui n'est pas d'un grand intérêt. Ce qui est plus intéressant, c'est la position particulière qu'adopte Maupertuis sur cette question de l'intervention, le problème de l'intervention des causes finales, hein, c'est-à-dire est-ce qu'on a le droit ou non dans l'explication des phénomènes naturels de faire intervenir les causes finales. Alors, André Charac donc, cite un passage de Bernoulli dans lequel il dit « S'il est vrai que... » c'est le passage qui figure en haut, là, en petit caractère. « S'il est vrai que les lois du mouvement soient des suites indispensables de la nature des corps, cela même prouve encore la perfection de l'être suprême, c'est que toutes choses sont tellement ordonnées qu'une mathématique aveugle et nécessaire exécute ce que l'intelligence la plus éclairée et la plus libre prescrivait. » Ça, c'est très intéressant, ça veut dire que Dieu est tellement astucieux qu'il est capable de produire de façon purement mécanique des effets qui ont l'air d'être la conséquence de l'exercice de la plus haute intelligence. C'est-à-dire qu'il n'y a peut-être pas de finalité réelle dans les phénomènes, mais vraiment toutes les apparences suggèrent qu'il y en a une. Et ça, c'est parce que l'auteur de l'univers est tellement intelligent et dispose de moyens tels qu'il est capable presque de nous duper, hein, presque de nous mystifier sur ce point, puisqu'il peut, sans avoir à sortir du domaine de la mécanique, mais au sens le plus strict, il peut réussir à produire des effets qui présentent toutes les apparences, qui présentent des apparences telles qu'on a l'impression qu'ils ne peuvent être que le résultat d'une intention délibérée, hein, dirigée par une intelligence de la plus haute espèce. Alors, André Charac commente ce passage en disant « En première lecture, cette affirmation paradoxale, mais osons-nous ajouter sincère sous la plume de Maupertuis, pourrait rappeler les déclarations de Leibniz sur le parallélisme des causes efficientes et finales dans la nature, tel qu'il est souligné, par exemple, dans le Tentamen Anagogicum. Il y a, pour parler ainsi, deux règnes dans la nature corporelle même, qui se pénètrent sans se confondre et sans s'empêcher. » Je vous l'avais cité, je crois, ce passage. « Le règne de la puissance, suivant lequel tout se peut expliquer mécaniquement par les causes efficientes, lorsque nous en pénétrons assez l'intérieur, et aussi le règne de la sagesse, suivant lequel tout se peut expliquer architectoniquement, pour ainsi dire, par les causes finales, lorsque nous en connaissons assez les usages. » Les textes que Maupertuis consacre à l'usage de la causalité finale en physique, en même temps qu'ils offrent une première occurrence de la formule de l'essai de cosmologie, renforcent d'ailleurs cette impression de leibnizianisme simplifié. Je vais malheureusement être obligé de m'arrêter là pour aujourd'hui, mais je vous en parlerai. J'essaierai de vous en dire un peu plus là-dessus la prochaine fois. Il y a en effet une certaine similitude entre la façon dont procède Leibniz, qui consiste à dire en gros il n'y a pas de guerre et ni même de véritable concurrence, hein, entre l'explication par les causes finales et l'explication par les causes efficientes. Nous avons besoin des deux espèces d'explications, même s'il est vrai qu'elles n'expliquent pas exactement les mêmes choses. Ça se complique encore quand Leibniz dit que, d'une certaine façon, tout pourrait s'expliquer par les causes efficientes, tout pourrait aussi s'expliquer par les causes finales. Ce n'est manifestement pas le cas. Il y a des choses qui ne peuvent être expliquées que par les causes finales, parce que dès que le principe du meilleur, par exemple, intervient, la finalité intervient aussi. Et, par exemple, si on cherche à expliquer pourquoi les lois de la nature sont ce qu'elles sont, on ne peut pas expliquer ça pour Leibniz purement en termes de causes efficientes. Donc il y a des choses qui ne peuvent s'expliquer qu'en termes de causalité finale, en termes de finalité, puis il y a des choses qui ne peuvent s'expliquer qu'en termes de causalité efficiente. Donc ça, c'est compliqué, c'est très compliqué, mais c'est de ça que je souhaiterais vous parler la prochaine fois. Je vais, pour aujourd'hui, en rester là. Alors, il y a un passage, je ne l'ai pas apporté, il y a un passage de Maupertuis où... je crois que André Charac le cite en note. Oui, je ne sais pas si j'ai mis la note. Oui, en note, donc, vous avez une citation de Maupertuis qui dit « On ne peut douter que toute chose ne soit réglée par un être suprême qui, pendant qu'il a imprimé à la matière des forces qui dénote sa puissance, la destinée à exécuter des desseins qui marquent sa sagesse, et l'harmonie de ces deux attributs est si parfaite que sans doute tous les effets de la nature se pourraient déduire de chacun pris séparément. Donc il y a quelque chose effectivement de très leibnizien dans cette façon de s'exprimer. Une mécanique aveugle et nécessaire suit les desseins de l'intelligence la plus éclairée et la plus libre, et notre esprit, si notre esprit était assez vaste, il verrait également les causes des effets physiques, soit en calculant les propriétés, c'est-à-dire soit en suivant la succession des effets tels qu'ils peuvent être expliqués en termes de causalité efficiente. Donc il aurait à la fois une illustration, si vous voulez, du mode de l'efficacité, du mode de fonctionnement purement mécanique hein, de la nature, et il aurait à la fois connaissance de ça, hein, de l'efficacité des lois de la mécanique, et de la sagesse des desseins de Dieu. Donc vous voyez que là, il y a effectivement une tentative de conciliation qui peut rappeler assez directement Leibniz, hein, qui revient à dire en gros qu'il ne peut pas y avoir de conflit réel entre ces deux types d'explications, l'explication par les causes efficientes et l'explication par les causes finales. Alors la prochaine fois, j'essaierai de vous parler d'un sujet que je considère comme horriblement difficile, encore plus difficile que ceux que l'on a abordés jusqu'à présent, peut-être le plus difficile de tous ceux dont j'aurais à vous parler cette année, c'est peut-il y avoir une forme de téléologie non métaphysique, c'est-à-dire est-ce qu'il est possible d'obtenir quelque chose comme une espèce de réhabilitation donc de l'explication par les causes finales, qui ne serait peut-être pas sur les deux types strictement leibnizien, mais enfin qui irait dans le même sens, hein, qui resterait fidèle au moins jusqu'à un certain point à ce que Leibniz avait en tête, c'est-à-dire qui réussirait à séparer radicalement l'effort de réhabilitation des causes finales de tout élément théologique. Est-ce qu'il est possible d'éliminer de la téléologie toute espèce d'élément théologique ? Voilà comment je pourrais formuler la question en terminant. Enfin, toute espèce d'élément théologique et même toute espèce d'élément métaphysique. Alors, c'est manifestement beaucoup demandé, mais je vous parlerai de ça la prochaine fois. Je vous remercie de votre attention.
Retrouvez tous les podcasts du Collège de France sur www.college-de-france.fr.